Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors en fait d'écrivain, aujourd'hui c'est un écrivain collectif dont il sera question puisqu'il s'agit de la rédaction d'une revue. La revue des citoyens engagés, tel est le sous-titre de ce magazine qui s'appelle « Sans transition ». Alors nous avons déjà reçu pour quelques numéros certains de ces rédacteurs, dont François Delotte qui va être notre invité aujourd'hui pour évoquer le sommaire du dernier numéro avec en couverture José Bourvet. François Delotte, bonjour.
Bonjour Alain.
Nous poursuivons nos entretiens réguliers puisque maintenant on a pris l'habitude quasiment de parler de la sortie de la revue du magazine Sans Transition. Là on a pris un petit peu de retard mais il est encore temps de lire le numéro dont on va parler.
Oui.
C'est important. Donc ce numéro est évidemment comme à l'habitude avec un cahier spécial consacré à l'Occitanie comme chaque fois. Il y a donc l'Occitanie, vous avez également, vous couvrez
la Bretagne.
PACA et la Bretagne. PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, et
j'en
profite pour dire que le mois prochain, nous aurons une nouvelle édition en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ah, formidable. Voilà donc, la pieuvre, pas au sens péjoratif du terme, mais l'empreinte, plus exactement, de Sans Transition s'étend de région par région.
C'est ça.
C'est intéressant, sans passer par la capitale.
C'est un essaimage progressif. Alors, pour l'instant, peut-être qu'un jour, nous essaierons de monter à Paris, c'est possible. Enfin, en Île-de-France, pas Paris, justement, en Île-de-France, puisqu'on est dans une dynamique régionale. Et donc, l'Île-de-France, effectivement, c'est pas que Paris.
Et sur le plan de l'écologie, il y a de quoi dire.
Et il y a de quoi dire. Il y a des enjeux et il y a des initiatives très intéressantes.
Alors, le numéro dont nous allons parler, c'est le numéro 10. Et en couverture, il y a un invité que tout le monde connaît, ou presque,
oui,
qui est José Bourvet. Alors, comme à l'habitude, c'est une interview qui est assez courte, mais qui est assez dense, comme à chaque fois. C'est un peu un entretien bilan, puisqu'il évoque son expérience de député européen. Ça fait 9 ans déjà qu'il est député européen.
Oui, tout à fait. Et donc, du coup, il explique un petit peu, effectivement, on comprend dans sa trajectoire hein, au cours de cette conversation, que comme il est passé un petit peu de la lutte, il était militant syndicaliste paysan, finalement à la politique, avec une certaine forme de cohérence. Et du coup, apparaît en filigrane en fait, de cet entretien un petit peu la façon dont lui y perçoit en fait la lutte politique pour l'écologie, pour plus de solidarité c'est ce qui est la substance en fait de l'entretien qui apparaît en titre, hein, mobiliser l'opinion pour gagner en politique. C'est au final, si on n'a pas l'opinion derrière nous et si on n'arrive pas à la mobiliser, hein, à la sensibiliser à des sujets, on n'arrive à rien. Et puis bon, il prend justement en exemple et on évoque avec lui ce sujet-là, le récent sujet de Notre-Dame-des-Landes avec le projet d'aéroport qui a été arrêté. On n'a pas pu évoquer les derniers événements, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore l'évacuation de la ZAD. On revient sur ce sujet-là.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque... Il porte un jugement sur l'action politique des écolos, quand même, en disant qu'il faut peut-être renverser la vapeur et donc précisément convaincre avant de vouloir vaincre, en quelque sorte. Et puis, il dit aussi autre chose qui est bigrement intéressant, c'est qu'il dit au fond, il faut se battre sur le terrain des idées avant d'élaborer une quelconque stratégie politique. Il dit d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que lorsque les écolos ont été au pouvoir, ils ont été embarrassés, empêtrés dans des logiques qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont des logiques productivistes, pour aller vite. Et donc, voilà, il faut vraiment tout reprendre à zéro, tout remettre à plat.
Oui. Oui, ouais, bah effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les précédents gouvernements socialistes, en tout cas, où les écologistes, en tout cas, bon, on pense à Cécile Duflot, par exemple, hein, sont rentrés dans des logiques, enfin dans un gouvernement, et du coup ont été pris dans une dynamique qui les dépassait, avec lesquelles ils n'étaient pas forcément en accord. Après, bon, il y a différentes lignes hein, chez les écolos, puisqu'on a vu qu'il y avait des écolos qui étaient compatible avec ensuite le gouvernement de Valls et qui ont fait scission avec ELV qui ont pu s'inscrire dans le gouvernement de Valls. Oui. Après, ce qui apparaît justement aussi au travers de l'entretien, c'est peut-être, même si c'est pas formulé comme ça, mais c'est l'engagement de Nicolas Hulot dans le gouvernement qui pose évidemment question aujourd'hui au regard de la politique qui est menée par Emmanuel Macron et des précédentes déclarations de Hulot ou même de ses écrits avant qu'il rentre dans ce gouvernement. Quoi.
Alors Hulot, qui ça va nous faire une transition toute trouvée, qui venait de publier un livre avec votre invité en public du mois dernier.
Tout à fait.
Vandana Shiva, et qui donc, là il y a quand même un certain décalage. Pourrait-on dire entre cette fraternité entre Vandana Shiva et Hulot et puis son entrée dans le gouvernement. Il fait un peu le grand écart là.
Tout à fait, oui. Alors Vandana Shiva qu'on avait invité à Montpellier récemment pour une conférence exceptionnelle avec à l'université, d'ailleurs que vous avez reçu à cette occasion sur les bonnes ondes. Vandana Shiva qui est une scientifique indienne qui est devenue une figure emblématique, on va dire, de l'altermondialisme et qui a publié récemment aux éditions Actes Sud un ouvrage d'entretien avec Nicolas Hulot en fait qui ont été réalisés avant qu'il devienne ministre. Et donc effectivement, est abordé dans ce livre. Bon, la question, évidemment, des rapports avec des grandes firmes hein, qui privatisent le vivant, hein, comme Monsanto, Bayer, Syngenta, enfin voilà. C'est l'objet de la lutte aussi hein, de Vandana Shiva depuis de nombreuses années hein, pour l'indépendance des petits paysans. Effectivement, tous les deux, ils abordent dans ce livre, en plus, la question des biens communs et la question de la solidarité. Aujourd'hui, on a du mal à retrouver Nicolas Hulot au travers de la politique du gouvernement qui est plutôt une politique libérale, on l'aura compris, cette dimension de solidarité, alors que même son ministère s'appelle le ministère de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, pardon. Effectivement, c'est vrai que... Alors moi, j'ai pu discuter avec Vandana Shiva à cette occasion pour lui demander ce qu'elle pensait en plus hein, du fait que Nicolas Hulot... parce qu'après avoir organisé cette conférence à Montpellier, on en a organisé une à Rennes. Donc elle passait par Paris, elle allait voir justement Nicolas Hulot, elle avait le temps de manger avec lui. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle pensait du fait qu'il ait rejoint un gouvernement libéral. Alors elle ne l'avait pas revu, je crois, depuis, mais elle m'a dit que Hulot lui avait dit que Macron était quelqu'un... qui était compréhensif en gros, qui pouvait peut-être adapter sa politique en fonction des arguments qu'on pouvait lui donner. Bon, pour l'instant, on a plutôt l'impression que Hulot avale des couleuvres, à moins que ce soit finalement sa conception de l'écologie, hein, peut-être.
Peut-être que on voit le maçon au pied du mur, donc là, on a peut-être une idée de ce qu'il a vraiment dans la tête et ce qu'il compte faire. Enfin. Voilà une affaire qu'il faut suivre, évidemment. Alors, dans ce numéro, vous évoquez, on ne va pas s'y attarder, mais enfin, c'est quand même, je trouve que c'est intéressant de le dire, il y a toute une enquête sur qui s'intitule « Les coulisses du numérique », où l'on voit à quel point le numérique... pose des questions d'équilibre écologique.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que...
Quand on dématérialise, on ne pense pas à l'effet
matériel. Voilà, on n'y pense plus. Hein. On envoie des mails, c'est autant de courriers qui ne sont pas envoyés. Mais en fait, ce n'est pas si neutre que ça en émissions de carbone, même pas du tout, et en empreinte écologique, puisqu'on sait très bien qu'après, il faut alimenter des serveurs, que c'est quelque chose qui produit beaucoup d'énergie, de la chaleur. Et puis après, il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on, enfin bon, cette chaleur, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on a fait cette enquête pour essayer de voir un petit peu, effectivement, faire une sorte de bilan. Mmh. Oui, voir, oui, effectivement, ça dépense de l'énergie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le web soit plus durable, en fait, hein, mmh. Partant de ce constat-là. Bon, il y a des structures, des start-up, des entreprises, il y a des initiatives aujourd'hui, même publiques, hein, qui visent, par exemple, à récupérer les chaleurs qui sont produites par ces serveurs, par exemple, hein, dans des réseaux de chaleur pour chauffer des bâtiments, par exemple, ça arrive, ou transformer cette énergie en électricité. Et puis, il y a la question aussi des objets connectés. Hein, aujourd'hui, on a tous des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, évidemment. On s'en sert énormément, on est très dépendant de ces appareils, mais ils ne sont pas fabriqués forcément de façon très responsable, puisqu'on sait que derrière tout ça, il faut des êtres humains pour aller chercher les métaux rares, machin. Enfin voilà, il y a des logiques de conflit aussi qui peuvent s'instaurer, des conditions de travail qui sont évidemment plus que déplorables, qui frisent l'esclavage, donc voir qui s'en est, des enfants qui peuvent travailler. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont abordées. Donc l'enjeu aujourd'hui, ça va être le recyclage aussi, hein, développer des filières pertinentes et performantes de recyclage de ces objets-là, sachant qu'il y a très peu d'entreprises qui proposent par exemple des smartphones responsables. Il y a l'entreprise Fairphone qui essaie de faire quelque chose, mais c'est aussi des objets qui coûtent très très cher. Donc voilà, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, cette question du web durable.
Alors, je suppose que là, vous aurez certainement l'occasion d'y revenir. Et...
Oui.
Une petite question par rapport à tout à l'heure. Vous avez fait venir, on évoquait la venue de Vandana Shiva. C'est quelque chose que vous allez reproduire, des grandes conférences comme ça avec des personnalités
Tout à fait. Évidemment, sans transition, est portée par une société coopérative qui s'appelle la Maison des Possibles et qui a vocation aussi à organiser des conférences. Mm-hmm. C'est ce qu'on fait régulièrement. Je peux déjà vous dire qu'au mois de septembre, on aura Paul Jorion, qui est un économiste assez connu, hein, plutôt marqué.
Un peu décalé par rapport aux écoles d'économie habituelles.
Ouais, très critique vis-à-vis de l'économie, on va dire, dominante. Et qui est issu lui-même d'ailleurs du monde de la finance, puisqu'il a travaillé dans ce milieu-là. Oui. Donc il est connu pour être une des personnes qui a alerté sur la crise des subprimes, avant qu'elle advienne, ça peut se produire. Et donc il a un regard très critique sur l'économie libérale, évidemment, et sur la finance. Son regard est vraiment, vraiment intéressant, mais en même temps, c'est vrai qu'il peut faire peur. Mais il propose aussi des choses. Quoi.
Aussi des choses. Le fait qu'il ait une formation également d'anthropologue donne quand même un côté plus humaniste.
C'est vrai qu'il a une formation. Effectivement. Oui. Tout à fait. Il y a cet aspect-là. Lui, il plaide vraiment pour la mise en place d'une économie alternative. Donc, ce sera intéressant aussi d'entendre ses propositions. Mm-hmm.
Donc, au mois de septembre.
Au mois de septembre, où je vous redonnerai plus d'informations par la suite là-dessus.
Alors, on en vient maintenant à un des sujets qui m'a le plus intéressé. C'est un sujet d'ailleurs que vous avez vous-même traité.
Oui.
C'est comment la transition écologique se passe au niveau des collectivités. Et vous avez enquêté sur les petites collectivités où il semble que sur cela où vraiment ça se passe, quoi. Alors, est-ce que c'est une question d'échelle, le fait que ce soit des petites collectivités où donc on maîtrise plus facilement les processus, ou est-ce que c'est un caractère institutionnel, le fait que ce soit des petites communautés de personnes qui font que les conflits sont moins aigus et qu'on fait plus facilement passer des idées nouvelles.
Effectivement, le dossier que j'ai réalisé, c'est il porte plus précisément, effectivement, plutôt sur des petites communes, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a tout un tas de petites communes de plusieurs centaines d'habitants à quelques milliers, qui mettent en place des actions de transition concrètes, efficaces, et avec visiblement quand même une large approbation de la population. En tout cas, ça ne crée pas de conflits majeurs. On s'est demandé pourquoi, en fait, il y avait ces dynamiques-là. Effectivement, il y a la notion de proximité, certainement, avec les habitants. Des actions de transition, c'est en matière d'écologie, de préservation de l'environnement, de solidarité, voilà, aussi de volonté de se désenclaver. Mais en fait, il y a aussi cette dimension-là qui est importante, c'est-à-dire se prendre en main, puisque de toute façon, on ne nous aide pas nécessairement, ou même on a tendance parfois, l'État peut-être, à se retirer, puisqu'on sait qu'il y a une baisse de dotation. Voilà, il y a des initiatives concrètes qui sont mises en place par ces communes pour qu'elles puissent elles-mêmes finalement résoudre leurs propres problèmes. Je pense par exemple concrètement
au
réseau Pousse qui est un réseau de qui est né dans la région, hein, dans la commune de... C'est Moissac, je crois. Mmh. Et donc, qui vise à ranimer un peu l'autostop, par exemple, dans les communes. Et aujourd'hui, en fait, c'est un réseau qui est parti de la région, qui est parti d'élus, hein, et qui est aujourd'hui qui s'est essaimé, dans toute la France, quoi, dans des communautés de communes, avec la mise en place... En fait, ça vise à faciliter l'autostop, en fait, avec la mise en place d'arrêts qui sont matérialisés, et même maintenant une application qui permet aux gens sur leur smartphone, aux conducteurs, de repérer des stoppeurs, des autostoppeurs. Voilà, donc ça fonctionne bien. Ça permet à des gens qui n'ont pas le permis de conduire, des jeunes, de se déplacer, de faire des petits déplacements, à des personnes âgées aussi, d'aller faire leurs courses. Enfin, voilà, et par exemple, ça c'est une bonne idée et qui permet aussi, en même temps, il y a un aspect environnemental, puisque du coup, on met plusieurs personnes dans une voiture. Donc,
c'est un BlaBlaCar local.
C'est pas tout à fait un BlaBlaCar, parce que c'est une sorte d'autostop amélioré, quoi. Effectivement, on va vers le covoiturage.
Sur des territoires
plutôt ruraux, puisque ça s'adresse surtout à des petits... Enfin, ça concerne surtout des petits déplacements, hein. Le but, c'est d'essayer de faciliter des petits déplacements locaux. Et puis, c'est des communautés de communes ou des parcs naturels régionaux. Je pense notamment au parc naturel régional des Pyrénées catalanes, qui a mis en place ce système-là avec un certain succès. Dans l'Hérault, il y a la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui l'a mis en place, par exemple.
D'accord.
Donc voilà, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner. Après, il y a en matière de démocratie, il y a des initiatives intéressantes. Hein. On sait que la démocratie participative, c'est un sujet qui est souvent mis sur la table par les politiques. Il y a une demande, on va en faire. Donc on est obligé de faire de la concertation aussi d'un point de vue légal. Mais des fois, c'est pas très poussé, quoi. On a l'impression que c'est plus pour confirmer des décisions qui ont déjà été prises, les faire adopter. Et il y a des communes, par exemple une commune de la Drôme qui a mis en place ça de façon très très poussée et qui... alors la commune, c'est la commune de Saillant, dont on a pu parler dans d'autres médias aussi. Alors là, j'ai pu interroger un élu et qui me détaille un petit peu le système. C'est-à-dire que eux, le conseil municipal, en fait, il ne sert plus qu'au final à acter les décisions.
C'est ça,
alors qu'elles ont été...
Le média, quoi.
Il y a un système très, très inclusif de la population qui a été mis en place avec des groupes de travail. Et les gens proposent des actions et contribue à mettre concrètement en place des actions.
Très bien. Vous avez également, vous êtes penché sur la question de l'abeille et de l'apiculture par rapport à l'agriculture. Alors, ce n'est pas évident et pourtant, il y a conflit, en tout cas antagonisme entre les deux. Et il faudrait bien que ça se résolve parce que l'abeille... a un rôle par rapport à la biodiversité qui est absolument essentiel.
Oui, et puis par rapport à l'agriculture, puisque c'est un insecte pollinisateur, donc les agriculteurs ont besoin de l'abeille pour polliniser leur plantation, leur culture. Effectivement, le conflit, il existe entre, on va dire, l'apiculture et l'agriculture conventionnelle qui utilise des pesticides, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une énorme mortalité d'abeilles depuis notamment le milieu des années 90, et c'est lié avec l'apparition des pesticides néonicotinoïdes qui ont été, pour faire simple, on parle beaucoup du Roundup, c'en est un, par exemple, hein, et qui s'attaque, c'est un insecticide, ça s'attaque au système nerveux, des abeilles, et ça les désoriente en fait.
Donc elles auront du mal à polliniser.
Oui, en fait, elles ne meurent pas tout de suite et elles ont du mal à rentrer à la ruche. Et elles meurent après, donc voilà. Mmh. Et du coup, donc ça, c'est un des aspects. Après, il y a d'autres aspects qui font que les abeilles sont menacées. Hein. Notamment, il y a des parasites. Hein. On parle du varroa, par exemple, hein, qui est une petite bête qui s'attaque aux abeilles. Il y a un champignon. Voilà. Aujourd'hui, l'abeille est fragilisée. Mais bon, effectivement, le problème numéro un, c'est les pesticides. Bon, ces pesticides aux nicotinoïdes, ils sont interdits maintenant sur certaines plantations, mais pas toutes. Et ils sont une rémanence, c'est-à-dire qu'ils restent dans le sol pendant plusieurs années et ils continuent à agir. Donc du coup, l'idée, c'est qu'il faudrait peut-être que l'agriculture et l'apiculture travaillent davantage main dans la main. Parce que nous, alors, les apiculteurs, effectivement, ils ne font que déplorer les mortalités d'abeilles. Les agriculteurs, ils ont aussi besoin, comme je le disais, donc des abeilles pour polliniser. Donc du coup, il y a un certain nombre d'actions qui commencent à se mettre en place pour faire en sorte que ces agriculteurs et apiculteurs coopèrent. Et puis la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que du coup, on ne pourrait pas changer l'agriculture, faire en sorte qu'elle utilise de moins en moins de pesticides en partant de l'abeille, en fait. L'abeille qui est un animal emblématique, qui est plutôt populaire en plus. Et donc protéger l'abeille permet de faire évoluer l'agriculture. Donc ça existe.
Sachant qu'en haute montagne, l'apiculteur et l'agriculteur, c'est souvent le même dans ces zones-là.
Par exemple.
Alors que dans la plaine, effectivement, c'est l'opposition entre l'industrie et et l'artisanat, en quelque sorte.
Oui. Après, il faut savoir qu'en bio, il y a une coopération qui existe, évidemment, depuis très longtemps, entre les agriculteurs bio et les apiculteurs, mais il n'y a pas de pesticides. Donc là, il n'y a, a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que les agriculteurs sont obligés de faire appel à des apiculteurs pour polliniser, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs ruches, ils les louent au pied de leur plantation, mais il est arrivé que les apiculteurs fassent la grève, en fait, de la pollinisation, parce qu'ils en avaient marre de voir leurs abeilles mourir. Il y a aujourd'hui des initiatives intéressantes qui sont mises en place. Il y a un label qui a été mis en place par un syndicat d'apiculteurs qui s'appelle Be Friendly, le label, qui fait que les agriculteurs s'engagent à diminuer leur utilisation de pesticides, tout du moins à ne plus utiliser de pesticides qui sont identifiés sur une liste noire. Et du coup, de pouvoir mettre des abeilles à proximité. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ces initiatives qui existent.
Alors, en lisant cette tradition, on s'aperçoit qu'il faut résister. Il faut résister à de nombreuses tentations.
Oui.
Et on va terminer par un article qui parlera à bon nombre de nos auditeurs, parce que c'est un sujet un peu rémanent. C'est, donc il y a une évocation de la résistance en Cévennes, avec une très belle interview de Patrick Cabanel, qui est historien et qui donc montre à quel point cette terre austère des Cévennes a été depuis toujours une terre de résistance et au fond une sorte de modèle vis-à-vis de l'État central, vis-à-vis des abus, vis-à-vis de l'arbitraire, vis-à-vis des lettres de cachet, comme on disait autrefois. Et donc c'est un bel appel à la résistance qui est lancé là.
Oui, tout à fait. Alors c'est avec donc un reportage qu'on a réalisé dans les Cévennes auprès de l'association Abraham Mazel, que vous connaissez bien, et qui a une maison du même nom au cœur des Cévennes gardoises, donc qui est un lieu dédié aux résistances en Cévennes, mais pas que, ailleurs, aux résistances passées, aux résistances actuelles, futures aussi, et qui fait le lien avec cette histoire, comme vous le rappeliez, qui est liée aussi à l'oppression qu'ont subi les protestants dans ces vallées, Cévenoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans ce territoire, ce qui est particulier aussi, au travers notamment de l'interview de Patrick Cabanel, qu'on a donc du coup mis à la suite de ce reportage, pour donner un petit peu un éclairage sur ce territoire, c'est qu'il y a un lien entre protestantisme et j'ai envie de dire solidarité, progressisme et finalement ce qui constitue la gauche sociale, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire européenne du protestantisme. Et dans ce territoire, il y a un lien même entre communisme et protestantisme. En tout cas, l'idée de république sociale, Et donc c'est assez intéressant. Ouais.
Très intéressant, et c'est une belle interview qui devrait amener aussi des auditeurs à lire les livres de Patrick Abanel, qui est un historien tout à fait remarquable.
Oui.
Voilà, ben, merci François de nous avoir... On a parcouru le sommaire de ce numéro, dont je rappelle qu'il est le numéro 10, et qu'il est sorti en mars, donc on a un petit peu de retard. Et le...
Alors...
on peut parler peut-être de la une du prochain.
Oui, oui, oui. Alors, il est encore en kiosque pour une dizaine de jours, donc
vite, vite.
Voir un petit peu... Oui, voilà. et donc, le prochain numéro qui paraîtra mi-mai, il sera... avec une qui sera un dossier en une qui sera consacré à l'évasion fiscale. À la lutte contre l'évasion fiscale, voilà comment on fait, quand est-ce qu'on arrête, en gros, c'est ça.
C'est bien parce qu'on ne vous attendait pas sur ce terrain-là, nécessairement.
Non, pas nécessairement, mais en même temps, c'est un sujet qui est très très important parce que c'est un sujet derrière tout ça, il y a l'idée de la solidarité nationale qui existe et du fait qu'elle peut être mise à mal par ça. Alors on a aussi, pour faire le lien, une interview de Yanis Varoufakis, qui était l'ancien ministre des Finances grec,
avant de démissionner. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et
merci à
au prochain numéro.
Au prochain numéro, merci.
Merci François Delotte de nous avoir guidé dans le sommaire de Sans Transition, dont je vous rappelle que c'est le numéro 10, qu'il est de mars 2018 et qu'il est encore en kiosque. On peut se le procurer en attendant la prochaine livraison qui aura lieu à la mi-mai. Puisqu'il est question d'imprimer, je voudrais vous signaler pour finir les dates de la Comédie du Livre dont on va fêter la 33e édition, les 25, 26 et 27 mai, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche, du mois de mai 2018. Alors cette année, il n'y a pas un pays à proprement invité, mais plutôt... un domaine littéraire, puisque ce sont les littératures, au pluriel, néerlandaises et flamandes. Vous savez que le nord de la Belgique parle le flamand et qui est la même langue que parlent les gens qui habitent les Pays-Bas. Donc c'est l'espace flamand en général, et donc néerlandais, qui est invité dans cette Comédie du Livre. On y verra un grand nombre d'auteurs venant de ces pays, même si certains sont... peut-être pas aussi connu que dans le cadre de certains autres pays. Alors, outre le pays, donc le domaine invité, il y aura une carte blanche à Alice Zeniter, qui est une jeune écrivaine qui en est à son quatrième roman, dont le dernier, L'art de perdre, a été passablement chroniqué. Et puis, il y aura également un éditeur invité, il s'agit de Sabine Vespizer, éditeur extrêmement intéressant, qui viendra avec son écurie, on pourrait presque dire, c'est-à-dire certains de ses écrivains, dont je vous signale la présence de Yannick Lahens, une écrivaine d'Haïti, qui écrit des livres absolument superbes, et de Michel Lèbre, qui est également une écrivaine qui compte. Et pour terminer, je vous signalerai que sera invité un éditeur pour la jeunesse, qui est Rue du Monde, et qui édite donc des ouvrages pour la jeunesse en direction de l'ensemble des pays et des continents du monde entier. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de Gulliver. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.